Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je voulais absolument vous raconter un bout de la vie d'Eugène Saccomanno, journaliste sportif de légende, qui a passé 40 années à Europe 1. Je me suis donc plongé dans son autobiographie, publiée en 2005 chez Plon. Je refais le match. Et j'en ai tiré le récit qui va suivre, qui nous raconte sa construction, de son adolescence à Nîmes, dans le Gard, jusqu'à son arrivée à Europe 1 au début des années 70. Et pour le débrief, j'ai demandé à l'un de ses compagnons de route d'être là. Bonjour François Claus.
Bonjour Christophe.
Et à tout à l'heure, la réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ai 15 ans et toutes mes dents. Et je suis élève au lycée de Nîmes. Le professeur de mathématiques, Monsieur Nodal, est un peu sourdingue. Alors, méchanceté de l'enfance, j'en profite un peu. Monsieur, monsieur, est-ce que je peux aller baiser votre femme? Bien sûr, Eugène. Mais attendez que votre camarade en revienne. Par contre, au moment des compositions, attention. Là, il prend la peine de lire sur nos lèvres. Il vaut mieux être ventriloque ou masquer sa bouche pour échanger avec son voisin les solutions aux problèmes. Parce que si on se fait surprendre, il faut déchirer sa copie et quitter la classe avec un zéro pointé. Ainsi va ma jeune vie quand un jour de l'année 1951 apparaissent sur les murs de Nîmes des affichettes qui annoncent un concours organisé par le journal L'Équipe Junior. Il s'agit de désigner le meilleur radioreporter sportif junior de France. Le concours, dit l'affichette, sera organisé dans une trentaine de villes, dont Nîmes. « Allez, Sacco, te dégonfle pas, hein. Vas-y, hein. Vas-y, tu vas gagner, on ira t'encourager. » Il faut dire que c'est un peu ma spécialité. Hein. Ça fait des années que je fais le mariole dans la cour du lycée, que j'imite Briquet qui commente les matchs de Radio Luxembourg et Delay pour Radio Monte Carlo. Et donc je m'inscris à ce concours de jeunes brailleurs. Ça se passe un soir à l'Olympia, un cinéma populaire de la rue Porte de France, à deux pas du lycée. La soirée est animée par un certain Roland Dordain qui deviendra 30 ans plus tard le patron de l'ORTF. Il s'agit entre autres de faire le commentaire d'un match de football imaginaire. J'ai choisi Nîmes-Le Havre. Parce que je connais par cœur l'équipe nîmoise et que dans l'équipe du Havre, il y a le seul joueur du championnat qui porte des lunettes, Strikan. En soulignant cette originalité, je gagnerai peut-être des points. Et donc je me lance. Et à la fin, j'ai gagné l'éliminatoire de Nîmes. Clic-clac photo dans le journal. Et puis après, plus rien. On ne me tient pas au courant de la suite. Et un mercredi soir, je suis en train d'écouter Radio Monte Carlo, comme toujours. Et là, j'entends la voix de Roland Dordain.
Voici donc les résultats du concours du meilleur radioreporter sportif junior de France. Le jeune homme qui l'emporte a découvert une affichette placardée près de son lycée à quelques mètres des arènes romaines de Sabonneville.
À partir de là, je peux vous dire que ma poitrine est un tambour.
C'est donc un Nîmois qui s'appelle Eugène Saccomanno, hein, qui gagne notre épreuve et se rendra aux Jeux Olympiques d'Helsinki.
À partir de ce moment-là, je me dis que j'arriverai à faire quelque chose dans ma vie. J'ai l'air d'intéresser les autres. Mais comment passe-t-on de l'état de feignant patenté que je suis à celui de staccanoviste? Eh bien, je n'en sais rien, mais c'est ce qui m'est arrivé. En attendant, j'ai gagné d'aller assister aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Et donc, début juillet 1952, je prends le train de nuit à la gare de Nîmes pour Paris. Mais pas la fameuse ligne Paris-Lyon qui vient d'être électrifiée, hein, trop chère. Je prends ce qu'on appelait à l'époque la ligne de la montagne, une locomotive à vapeur qui perfore le massif central. Et me voilà qui débarque à la gare de Lyon avec ma petite valise, alors que Paris se réveille dans la grisaille. Le métro me conduit rue du Faubourg-Montmartre, siège du journal L'Équipe, où j'intègre une petite troupe d'une trentaine de supporters qui partent pour les Jeux Olympiques. On prend d'abord un train, l'Étoile du Nord, jusqu'à Stockholm, et ensuite un bateau, un ferryboat, entre Stockholm et Helsinki. Et là, il faut que je vous raconte, on a des billets de troisième classe. Et donc on dort allongé par terre dans les coursives, le long des cabines de ceux qui ont payé plus cher. Et je m'aperçois que, en bas de chaque porte, presque au ras du sol, il y a trois petits trous d'aération. Et c'est là que je découvre que je suis un mateur. Car par les petits trous, je vois quatre ou cinq créatures australiennes superbes, entièrement à poil. Ah, c'est beau, les voyages. Mais le meilleur reste à venir. Une femme de notre groupe, dont j'ai remarqué la veille entre le train et le bateau qu'elle me draguait, vient se coller derrière mon dos. Ses seins plaqués contre moi. Et je sens sa main qui passe sous la couverture et qui trouve un passage. Et moi qui continue de mater les Australiennes. Je n'ai jamais été aussi excité de ma vie. Je suis un mateur. À Helsinki, je suis très privilégié puisque je peux choisir mon programme. Ma plus forte émotion, c'est le titanesque 5000 mètres, le 5000 du siècle. Qu'est-ce que j'aurais aimé le commenter ? Satopek qui grimace dans la cendrée, Mimoun qui ne la lâche pas d'une semelle. Et à la fin, Émile Satopek qui l'emporte. Helsinki, c'était les jeux du sport et des sportifs. Pas d'argent, pas de sponsor, pas de magouille, pas de dope. À part ça, je joue au foot et je me débrouille. Avec les cadets du Nîmes Olympique, on vient de remporter le titre de champion du Gard devant Alès, l'éternel rival. Et puis une fois par an, on a la chance de voir venir jouer chez nous le Grand Reims ou l'OM de Ben Barek. Mais c'est tout, hein. Le reste, c'est de la radio et à la radio, on ne voit rien. On devine. Il faut attendre les images fugaces des actualités le samedi soir au cinéma pour découvrir les exploits de Vignal ou les dribbles de l'Allemand Fritz Walter. En vérité, on est sevré de foot, à peu près autant qu'on en est gavé aujourd'hui. Mais ma carrière de footballeur ne dure pas. Les entraîneurs n'aiment pas les glandeurs de mon espèce. J'aime le jeu, hein, mais beaucoup moins les efforts qu'on doit lui consentir. Trois entraînements par semaine, les échauffements avant les matchs. Moi, le samedi soir, je préfère courir les balles. Et donc, petit à petit, je fais partie des joueurs qui ne sont pas complètement titulaires. Promis à un club amateur de région comme Beaucaire ou Saint-Gilles. Ma carrière de footballeur s'éteint à petit feu. À part ça, il n'y a pas que le football qui a envahi ma jeunesse. Il y a aussi les taureaux. Dans les fêtes votives, à Saint-Césaire par exemple, l'été, après la prestation des raseteurs, il y a toujours, comme disent les affiches, deux vachettes réservées à la jeunesse. Et moi, j'ai 16 ans. J'en suis, bien sûr. Avec les copains, on fait les marioles. J'appelle la vachette de plus en plus près. Parfois, elle me fonce dessus, elle me renverse, elle me piétine. J'entends les gens qui crient, qui rigolent, et moi j'ai peur. Et puis comme une vachette est éternellement distraite, elle me quitte et je suis sauvé. Mais aux taureaux T-A-U-R-E-A-U-X, j'ai toujours préféré les taureaux T-O-R-O-S. J'ai toujours préféré la corrida. En 1953, à Nîmes, j'assiste à ma première corrida. Là-haut, dans les amphis, aux places populaires et d'entrée, j'adore la façon que le torero Rafael Ortega a de dominer son adversaire, de le conduire à la pique, de l'en retirer, de l'user noblement à la moulette pour l'obliger à venir sur son terrain, de le cadrer et puis de le tuer. J'aime la corrida, ce ballet cruel entre la vie et la mort. La lumière aveuglante de la piste, les couleurs, la musique. Je comprends ceux qui n'aiment pas ça, mais ils ont un gros défaut. La tolérance n'est pas leur fort. Le temps de faire mon service militaire et ensuite le journalisme m'attrape au cœur et aux tripes. Pour devenir un vrai journaliste, avec une carte et un numéro qui me suivra toute ma vie, je débarque à Marseille, au Provençal, où on me dit que je vais apprendre le métier, à ce qu'on appelle le marbre. Je vous explique. L'après-midi arrive dans de grandes enveloppes rouges qu'on appelle des hors-sacs, et plus rarement par téléscripteur, la copie des correspondants dans les villages, qui sont en général des instituteurs ou des secrétaires de mairie qui améliorent comme ça leur ordinaire. Ils racontent le mariage de la fille du pharmacien, ils parlent du loto organisé par le foyer rural ou du dernier match de leur équipe de foot, en utilisant les clichés les plus éculés, les plus rebattus de la langue française. Le général hiver est de retour, la neige étend son manteau blanc, ou bien Phébus darde ses rayons chauds. Et à moi de corriger et de calibrer tout ça. Je décide du calibre de la police, de la largeur du titre, 2 ou 3 colonnes. Et ensuite je descends à l'atelier, monter mes pages. Et là je me retrouve face à l'aristocrate de l'atelier, le typographe, en bleu de chauffe et en position de force. Je dois vérifier si telle photo correspond bien à la légende, si ce n'est pas celle d'un mariage à la place d'un enterrement, s'il n'y a pas eu d'inversion entre deux titres. Le typographe est en général un fort en gueule, il arrive qu'on en vienne aux mains, mais une heure plus tard, on va boire le pastis de l'amitié. Et à l'atelier, on croise les grandes signatures du journal qui viennent relire leurs papiers. Et un jour, le rédacteur en chef des pages spectacle me dit « Dis-moi, jeune, il paraît qu'avec ton ami Seguin, vous êtes des vrais cinglés de cinéma. Je manque de bras et surtout de plumes pour les critiques des films. Viens me voir quand tu veux. » Pour moi, c'est le bonheur total, même si à côté, je devrais continuer mon travail barbant de secrétaire de rédaction. Mais je vais pouvoir aller au cinéma à l'œil et avaler des dizaines de films. Murnau, Bergman, Fellini, Baroque et Fou, et Godard, qui me déroute. On se gave. Hélas, un jour, mes critiques fâchent les épiciers de la cinématographie, que sont les directeurs de salles, dont l'unique idole est Henri Verneuil, parce qu'il remplit les caisses. Et donc, notre aventure n'aura duré qu'un an. Mais pour nous, c'était un siècle de cinoche. Mais j'y reviendrai. Plus tard, en 1968. À cette époque-là, je viens d'écrire mon premier livre, « Bandit à Marseille », une sorte d'anthologie du banditisme marseillais du début du siècle à nos jours. Je suis dans ma petite bicoque de Malmousque, quartier d'Andoume, que je me suis acheté à crédit. Le patron des éditions Julliard m'appelle.
Dites-moi, Sacomano, je vous annonce une bonne nouvelle. Votre bouquin a intéressé Alain Delon. Il a contacté notre agent littéraire. Il voudrait l'adapter au cinéma, avec Jacques Deré. Vous nous donnez votre accord ?
Bien sûr que je leur donne mon accord. Et Jacques Deré vient me voir à Marseille. On déjeune au New York, l'un des meilleurs restaurants de poissons. Alors que je vous explique. Le film s'appellera Borsalino. Et pour la première fois, je vais réunir Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Ils joueront Capella et Siffredi. Moi, j'espère qu'il va me proposer de travailler sur le scénario. Mais c'est non. Et à partir de là, je vais être floué, couillonné, pour ne pas dire baisé. Jacques Deray n'y est pour rien. Mais comme je suis un inconnu dans la maison du cinéma, je me fais plumer comme un pigeon. Je signe un contrat pour un avaloir de 60 000 francs, plus 0,5% des recettes dans le monde entier. Mais malgré l'énorme succès du film, je ne toucherai pas un seul centime en plus de mon avaloir. Mais bon, là, je suis allé un peu vite. Retour à mes années de journaliste. Depuis 1960, mes 24 ans, en plus du Provençal, je suis le correspondant à Marseille d'Europe numéro 1. Et pour eux, je couvre notamment l'élection municipale de 1965. Gaston Defferre, socialiste, va-t-il être réélu à la tête de Marseille. Je vous rappelle qu'il est par ailleurs mon patron. Il est le propriétaire du Provençal. Au passage, qu'est-ce que cet homme ne ressemble pas à Marseille ? Il ne boit pas de pastis, il ne joue pas à la pétanque, il ne fait pas la sieste. Bref, le directeur général d'Europe numéro 1, Maurice Siegel, m'a demandé de faire venir Defferre au micro pour qu'il participe à la soirée électorale. Mais par souci d'équilibre, Siegel m'a aussi demandé d'installer un micro dans le camp adverse, le camp de droite, au journal Le Méridional. Quand Defferre apprend ça, il m'envoie un de ses directeurs. Il est furieux contre toi, hein ? Si tu laisses ton matériel de l'autre côté, il te fout à la porte dès lundi matin. Hein ? Et donc j'appelle Maurice Siegel.
Ah ! Gaston n'a pas changé. C'est la même tête de mule que quand je l'ai connu dans la Résistance. Bon, Sacomano, écoutez-moi bien. Si lundi, il vous fiche dehors au Provençal, eh bien mardi, vous montez à Paris, hein ? Et je vous embauche à Europe numéro 1. Et en attendant, bien sûr, vous laissez votre matériel de l'autre côté. Hein.
À 20h35, on sait que Gaston Defferre est réélu. Et à Paris, au siège d'Europe numéro 1, on s'impatiente.
Sacco ? Siegel veut prendre Defferre dans les tout premiers intervenants. Où il est, bon sang ?
Comme il n'arrive toujours pas, pour calmer Maurice Siegel, je propose à Paris de prendre, en attendant, Francis Linhart, le président du groupe socialiste à l'Assemblée.
Bon, c'est d'accord, installe-le au micro.
Je viens de faire une grosse bêtise. Siegel commence l'interview, et là arrive Gaston Defferre, avec son manteau et son chapeau. Et quand il voit Linhart au micro, il me fusille du regard. Il nous fait lanterner encore une bonne vingtaine de minutes. Il arrive enfin, il se plante devant moi. « Je vais pas vous louper, Sacomano. Vous viendrez me voir après l'émission. On réglera nos comptes. Je vais vous apprendre, moi, ce que c'est que le respect de vos invités. » Je suis jeune. Je vais tout perdre. Et effectivement, juste après, Gaston Defferre me fout à la porte du Provençal. Je suis estranciné, espouti, comme on dit à Marseille. KO debout. Tout s'écroule. Sauf que le lendemain, il a oublié. Je n'irai pas tout de suite à Paris. Maintenant, je suis au soir, l'édition de fin de journée du Provençal. Et alors que la vague yéyé inonde le pays, je propose une chronique hebdomadaire qui s'appellera « Le temps des copains ». Et me voilà donc en plein mois d'août dans la Chevrolet Mauve de Claude François. C'est Paul Lederman, son jeune impresario, qui conduit. « Elle avale 18 litres au 100 !» 18 litres d'huile, bien sûr. Claude François est engagé dans la tournée des Idoles. Mais seulement en vedette américaine, hein, c'est-à-dire avant Sylvie Vartan, qui chante faux, mais qui est la star du spectacle. Qu'est-ce que je fais là ? Eh bien, j'écris des articles, j'envoie des chroniques au jeune Jean-Pierre Foucault à Europe numéro 1, et Paul Lederman a réussi à me convaincre d'organiser moi aussi des galas. Évidemment, pour ne pas être jugé parti, je dois monter mes spectacles loin du journal. Par exemple, sur la plage du Gros du Roi, ou parfois je pousse jusqu'à Toulon, ou jusqu'en Avignon. Et là, je peux vous dire que je découvre ce que c'est que l'argent facile. Du cash, rien que du cash. En 3 heures, tu deviens riche. Fascinant. Et à côté de ça, je suis là du début à la fin. À 22 heures précises, quand Claude François, par exemple, entre sur scène.
Je ne suis sans doute pas très vieux, mais je connais l'amour. Quand une fille te rend malheureux, pleure pas tous les jours.
Et après, je suis là pour la grande bouffe nocturne entre 1h et 4h du matin. Mais parfois, Claude n'y va pas. C'est un coureur, c'est un dragueur. Et donc, je l'accompagne dans ses escapades amoureuses. Le cul est son échappatoire. Il aime les femmes-enfants, et avec ses admiratrices, il a le choix. Et puis, les galas finissent par manger ma vie. Je cours déjà les routes pour le journal, pour la radio, c'est trop. Et puis ça n'est pas vraiment mon métier. À l'été 1966, je décide d'arrêter. Sauf qu'il me reste encore 6 contrats à honorer, que j'ai signé l'hiver d'avant. Le 13 juillet, j'ai programmé Jean Ferrat aux arènes du Gros du Roi. Ferrat est dans son époque Potemkin. Sur le papier, je suis sûr de faire le plein. Sauf que quand j'ai signé le contrat, je ne savais pas que le même jour avait lieu au stade Wembley de Londres le premier match de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de football 1966. Les arènes sont à moitié vides.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan.
Les vacanciers sont allés voir le match à la télévision, à la terrasse des bistrots. Je suis ruiné et je paie mes dettes avec un gala de Claude François 10 jours plus tard. Il me reste un gala à organiser. Le plus grand, le point d'orgue de la saison. Jacques Brel. Le patron du café du commerce au Gros du Roi m'a mis en garde. Le 7 septembre. Tu veux faire ton concert le 7 septembre? Ne fais pas cette bêtise, Eugène. Au Gros du Roi, tous les ans, il pleut entre le 5 et le 10 septembre. On n'est pas à Saint-Tropez ici, hein? Mais t'es fou, je peux pas annuler Jacques Brel. Je te le dis, il pleuvra. Maintenant, tu fais ce que tu veux, hein? J'appelle l'impresario de Brel, Marouani, et je me dégonfle. Et pendant 38 ans, je n'ai pas su s'il avait plu ce jour-là. Je ne l'ai appris que très récemment, grâce aux archives de la météo. Il a fait très beau temps, 21 à 23 degrés. Je demande pardon à Jacques Brel. J'arrive au bout de mes années marseillaises. Un soir, vers 6 heures, je suis à mon bureau, au premier étage du journal. Vous vous souvenez de mon livre, « Bandit de Marseille », devenu le film Borsalino. Ce soir-là, il me revient en pleine gueule quand le téléphone sonne. Allô ?
Monsieur Saccomano, vous avez écrit un livre qui nous fait beaucoup de mal. Beaucoup. Alors avec quelques-uns de mes amis, on a décidé de vous punir. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on verra. Vous avez été tellement dégueulasse qu'on a décidé de vous faire mariner. Mais monsieur Saccomano, ça se terminera par une balle dans la tête.
Et le type raccroche. Et donc ce soir-là, je ne rentre pas chez moi, je vais passer la nuit à l'hôtel Saint-Georges. Je suis cerné. Et c'est à cause de ça qu'en janvier 1970, je débarque à Paris, rue François 1er, au siège d'Europe 1, où je suis accueilli entre autres par le présentateur d'Europe Midi, André Arnault. Eugène, surtout ne perds pas ton accent, hein? Corrige-le, ne le laisse pas trop traîner, mais écarte-le. C'est ta marque de fabrique. Elle te sort du tout venin.
Marseille est champion d'Europe! Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe! Marseille, heureux! Marseille, euphorique ce soir!
Trezeguet qui frappe!
But à mort! But à mort! But à mort de Trezeguet! Trezeguet, l'homme qui fait des miracles! Trezeguet, l'homme qui à chaque fois nous donne la victoire! Exceptionnel! Petit qui va marquer le troisième but! Et troisième but, 3-0! Nous sommes! Ils sont tous ensemble! La France entière est championne du monde de football!
Quelle belle histoire! Que nous allons débriefer maintenant avec l'un des nombreux compagnons de route. S'il y a des compagnons de route, Eugène Saccomano, c'est bien dans cette maison. François Clauss est là. Vous avez été avec lui au service des sports. Combien de matchs
avec Marseille, on a partagé. Il m'a ouvert les portes de Marseille, puisque je suis resté 11 ans correspondant d'Europe 1 à Marseille. Et que, oui, j'ai beaucoup pensé à lui quand je suis devenu chef du service des sports en 2013. C'était un héritage très lourd à porter, mais compagnon de route, il a été un guide même. Un guide de la vie, un guide du journalisme, un guide de Marseille, un guide du bien-être, un guide de la sensualité. Il était un peu tout ça. Il était ce que vous racontez formidablement dans ces années de jeunesse, qui nous raconte déjà le Sacco qu'on connaîtra à Europe 1, pour ma part, à partir de 1980.
Alors je dois dire que ça n'a pas été facile de tracer ce récit dans son autobiographie, parce que Eugène est un garçon qui ouvre des parenthèses, ne les referme jamais, et ne situe pas les choses dans le temps. Je me demandais à quoi ressemblait le cahier de match d'Eugène Saccomanno, parce que tous les commentateurs de foot ont un cahier, une fiche sur laquelle il y a la composition des matchs. Alors c'est plus ou moins bordélique, lui c'était comment ?
Alors il l'avait toujours sous le bras. Il avait quand même besoin d'avoir un espèce de support. Mais dès qu'il était au micro, dès qu'il y avait la pelouse, dès qu'il y avait l'odeur du gazon, dès qu'il y avait le son des tribunes, il était là, l'œil se mettait à briller, et on vient de l'entendre ici, il entrait dans une autre dimension.
Oui.
Donc il avait son petit cahier, là, et son imper pour entrer au stade. Alors, généralement, c'était celui qui commentait avec lui, qui portait le nagra, 13 kilos à l'épaule, donc on était là à côté, il nous laissait brancher le... Et puis alors, se trouver à côté de lui... pour commenter un match, et j'ai fait les plus grands stades d'Europe, de Manchester à Marseille. C'est un moment.
En passant par Paris.
On l'accompagne dans son mouvement. Oui, vous avez remarqué, j'ai pas dit.
De Manchester à Marseille. En passant par Paris,
allez, disons-le.
Alors, François, je pense que beaucoup de gens ont été surpris, sans doute parce qu'ils ne connaissent pas les journalistes, parce que, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est un peu la marque des journalistes sportifs d'Europe 1. Ce ne sont pas des gens avec un ballon de foot dans la tête. Pas plus vous que Pierre-Louis Basse, pas plus Pierre-Louis Basse que Eugène Saccomanno. Vous avez tous les trois d'autres centres d'intérêt. En fait, vous êtes aussi des intellos, ce qui peut surprendre.
Alors, intello, je sais pas, mais on vit le foot comme un des éléments de passion de la vie. Et les autres passions, elles sont là. Vous avez bien raconté comment au Provençal, il a d'abord été critique de cinéma.
Oui.
Et il a été fasciné par l'arrivée de la nouvelle vague. Et quand j'entendais la musique nîmoise de ses années jeunesse, on repense au Miston, bien sûr, Bernadette Lafont sur son vélo et les premiers films de la nouvelle vague qu'il adorait. J'ai le souvenir avec lui qu'on quittait la conférence de rédaction sur le coup de 14-15 heures pour aller au Champollion ou à l'Action École au Quartier Latin et revoir, parce qu'on adorait tous les deux, les cycles de films noirs. C'était un dingue de Sterling Hayden, par exemple, l'acteur. Il allait voir ces films-là. Il en sortait avec la même gourmandise que d'un stade. Mmh. Et évidemment, les livres aussi.
Les livres et la musique. Alors ça aussi, ça peut surprendre de voir Saccomanno, qui ressemble pas à Claude François. On le voit pas avec, mais n'empêche qu'ils se sont bien entendus pendant les spectacles et après les spectacles.
Il y avait tout ce qui était autour de lui. C'est-à-dire, il vivait le journalisme, et le journalisme, c'était la vie. C'est une forme, nous, ça nous renvoie à une pratique du métier qui, malheureusement, appartient à une forme de passé, mais pour lui, tout était lié. Et il racontait, dans ses débriefs du soir, dans les restaurants, autour d'un plat de pâtes, vous évoquiez le quartier de Malmousse, mais il y avait le panier aussi, on allait manger la pizza après les matchs de l'OM, et c'était un vrai régal que de l'entendre raconter un film, une rencontre, mais comme un événement. C'était sa vie, mais pour lui c'était un événement. Et à côté de ça, mais il était fasciné par les événements eux-mêmes, parce qu'on oubliait que c'était un chasseur de scoops et d'infos qui a commencé dès Munich 72.
Mais alors, pour quelle raison est-ce qu'il devient journaliste de football et pas journaliste littéraire ou journaliste de musique ou journaliste de cinéma ? Bon, je me dis que l'accent a peut-être compté, c'est-à-dire faire carrière avec cet accent qui est quand même très prononcé. À l'époque, en dehors du foot, c'était pas trop possible. Il avait pas tort, André Arnaud.
Eh ben exactement, il l'a redit après à un collègue comme Edmond Zucchelli qui est arrivé, et on était la radio des accents, nous, Europe. Et le foot, ben, il est arrivé au bon moment, c'est-à-dire il n'y avait pas d'image de la télé. Et lui, il aimait tellement raconter des images qu'il est devenu... Il faisait sortir des images du poste.
Ouais.
Et c'était une véritable épopée, puis c'était lié à un mode de vie à l'époque. On voyageait, vous imaginez, aller en Suède, aller en Amérique du Sud, il adorait ces voyages-là. Et Dieu sait que lorsqu'il était à l'étranger, c'était pas hôtel, casino, stade, c'était hôtel, resto, promenade dans la ville, essayer de tout happer, de tout capter avec cette gourmandise qu'il avait dans le regard et dans le comportement. Et le foot lui permettait de vivre ça, et il a vécu, comme il aimait l'info et le partage, les grandes épopées françaises qui se sont inscrites dans ces années-là avec le football. Saint-Étienne, les Verts, c'est beaucoup plus que du foot. C'est la France réunie, c'est la France du Forez. Marseille, championne d'Europe pour la première fois en 93, on descend sur les Champs-Élysées. Et puis Platini, c'est un personnage qui va au-delà du footballeur. C'est le héros national. Il a accompagné toutes ces années-là, en le racontant et en le vivant.
Il raconte assez bien que lui-même n'était pas fait pour être footballeur, parce que trop dilettante en vérité. C'est incapable de s'astreindre aux entraînements et même à l'échauffement. Il dit que l'échauffement avant les matchs, ça lui cassait les pieds.
Mais oui, mais comme finalement ce qu'il aimait à la radio, c'était le direct et raconter.
L'improvisation.
Comme c'était, ouais, quand il fallait préparer des choses. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne bossait pas, mais en revanche, il bossait là, en captant tout ce qu'il y avait autour de lui. Ce qui lui a permis d'être l'un des grands amis. Il allait dîner en tête à tête avec Platini. Il est l'un des seul journaliste à avoir été voir Bernard Tapie en prison. Le lien qu'il avait avec Bernard Tapie, qu'il l'emmenait dans son avion privé, Sacco adorait partager les destins de ces gens-là, comme celui de Claude François lorsqu'il était agent de spectacle.
Alors je suis assez content qu'il y ait eu dans le livre des chapitres sur sa vie sexuelle. On sent qu'il les a écrits volontairement, donc je ne trahis rien, parce que c'eût été trahir Gene Saccomanno que de ne pas dire qu'il aimait ça.
Il aimait ça, c'était cette gourmandise permanente qui l'habitait et qui le faisait regarder, sentir, avoir besoin de l'ensemble de ses expériences. Et il adorait les faire partager et les raconter derrière.
Avant, pendant, après.
Voilà, alors il y avait l'avant, il y avait le pendant qu'il vivait et l'après qui devenait une forme d'épopée totale et on pouvait être une table de 15 autour et de l'entendre raconter des nuits parisiennes et des rencontres. Et d'ailleurs, si vous lisez bien Goncourt 32, très beau livre que son roman, où c'est la bataille entre Céline, qui n'aura jamais le prix Goncourt pour Voyage au bout de la nuit, quel scandale, il était encore énervé de ça, et Mazeline, bourgeois, marseillais, petit auteur, qui aura finalement ce Goncourt. Il y a des scènes de sexe totalement inventées dans le livre, où on sent le Saccomanno.
Ouais, il aurait aimé faire de la littérature érotique, ça paraît clair.
Mais je vais vous dire une chose, pendant des années, il écrivait dans son bureau l'après-midi, pendant un conf de rédaction, le courrier des lecteurs, alors il écrivait le courrier et les réponses de la revue Union, qui à l'époque était de l'érotisme torride. Alors il écrivait les problèmes des femmes, il répondait en tant que médecin aux problèmes des femmes qu'il s'inventait. Et de temps en temps, il nous faisait lire en avant-première. Donc je vous dis pas la régalade entre la conf de rédaction et le quart d'heure dans le bureau de Sacco.
Il y a un petit passage qui a dû faire grincer des dents, c'est le chapitre sur la corrida. On sent qu'il l'a mis à dessein pour emmerder le monde, pour ne pas se plier à l'injonction de ne pas parler de corrida.
Mais évidemment. Mais vous le voyez se plier, Eugène? Non.
Non.
Non, non, il aimait ça, il le revendiquait, il le vivait. Il a été un de ceux qui m'a initié quand je suis arrivé dans le sud, là, au Feria de Nîmes et au Feria d'Arles, à cet art si particulier qu'est la corrida. Oui, il adorait ça. Il y avait tout finalement dans la corrida. Il y avait la lumière, il y avait faut voir une arène au coucher du soleil, la fête derrière, la fête toute la nuit.
Et les femmes avec les châles et les robes.
Et voilà, cette sensualité qui se dégage de ces moments si particuliers que sont les corridas et les férias autour des corridas.
Le fait qu'il ait écrit le livre qui a inspiré le film Borsalino avec Delon et Belmondo, il en parlait.
Alors, il en parlait, oui, parce qu'il avait une forme de fierté. Après, sur l'histoire de son retour à Paris, les menaces, il y a deux versions. Il y a la version officielle où, effectivement, il en dit trop sur le clan Guérini qui règne sur Marseille. Il y a l'autre version qui est accréditée par les journalistes marseillais qui disent « Non, mais le milieu, finalement, il est resté calme là-dessus. » En revanche, Saccomanno, il emmerdait du monde à Marseille parce que c'était le meilleur sur les infos gênées. Il y avait des jaloux.
Et il y a une version... Donc, c'est pas sûr que ce soit un mec du milieu qui lui ait téléphoné ce soir-là.
Il y a une version que c'est des confrères jaloux qui ont pris les voix. « Oh, Eugène, tu sais, c'est le village qui t'appelle. Tu peux pas dire ça. Fais attention, Eugène. » Voilà, ça, c'est une autre version. J'ai bien entendu beaucoup de Marseillais qui me l'a raconté. Lui, finalement, il n'en parlait pas trop, mais il était content d'avoir écrit Bandit à Marseille. Moi, j'ai la version originale, la couverture Bordeaux, là, signée d'Eugène, que j'avais trouvé un jour au puce de Vanves. J'en suis très fier.
Et l'argent qu'il n'a pas touché, il en parlait de ça? Parce qu'il parle souvent d'argent dans son livre. Donc, moi, je suis bodeur que l'argent ne le désintéressait pas.
Mais oui, mais c'est en partie pour ça qu'il est passé à la télé. Il m'a dit, tu devrais aller à la télé, il y a du pognon. il s'agissait pas, à l'époque, lorsqu'on refait le match, est acheté par LCI, il s'agissait pas de faire du fric, mais bon, il aimait bien
l'argent.
Il aimait bien ça aussi. Et en égo, là, quand il racontait le dessous de ses dégos quand il allait à la DRH d'Europe, il savait là aussi faire le match.
Il y a ce passage aussi sur Gaston Defer que j'ai trouvé formidable, parce que ça raconte très très bien ce que c'était que d'être journaliste localier dans un journal puissant comme la Provence, comme le Provençal à l'époque, qui appartenait au maire de Marseille, ce qui est un truc absolument dément.
Oui, enfin, le maire de Marseille, qui avait quand même libéré le Provençal, arme à la main, hein, Gaston Defer, il est entré, arme à la main, dans les locaux du Provençal à la Libération.
Oui, mais c'était 15 ans après, il aurait pu le revendre. Ça ne lui plaisait pas, ça, je suppose, ce manque d'indépendance, en vérité, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire ni dire ce qu'il voulait, puisque le patron était aussi le maire.
Mais en même temps, il aimait côtoyer les gens qui étaient là au pouvoir, mais pas forcément, justement, et surtout pas pour leur cirer les pompes, mais pour comprendre leur fonctionnement. Ça a été sa relation également avec Tapie. Il était fasciné par ces gens-là, et son but à lui était de le raconter aux autres. Et ça l'empêchait pas, derrière, de dézinguer quand il fallait dézinguer, mais tout en gardant une relation très, très forte. Il y a son amitié dans les années marseillaises avec Séguin. Séguin, il sort quand même il est stagénat, il va à Marseille, ils habitent tous les deux dans une maison à Malmousque, aujourd'hui un des quartiers les plus prisés de Marseille, mais qui à l'époque était encore un quartier populaire. Ils sont en deux chevaux tous les deux. Philippe Séguin, je les ai vus, moi, tous les deux au moment de la Coupe du Monde 98, l'amitié qui les liait était d'une force, et on n'imagine pas forcément les deux personnages côte à côte. Mais si, c'était ça aussi, Sacco.
Autre passage évidemment surprenant, que sans doute plein de gens découvrent, le fait qu'il ait été tourneur de chanteurs yéyé, qu'il ait donc fait tourner Claude François, Antoine, j'ai pas eu le temps de le raconter, il y a une jolie scène avec Antoine, et Jean Ferrat, et Jacques Brel, donc, enfin ça a failli. Est-ce qu'il avait gardé des liens avec le milieu de la chanson, ou est-ce qu'il a coupé les ponts?
Non, ça a été une époque de sa vie. Ça a été une époque de sa vie, il le vivait comme ça. Ben, il savait épouser son temps. Il a été dans le foot quand la France a commencé à gagner. Il a été dans les faits divers quand Marseille était la capitale mondiale des faits divers. Il a été avec les yéyés, il a été avec la nouvelle vague. Et il a été le premier à faire un talk show à la télé. On a oublié quand même le « on refait le match ». Aujourd'hui, vous avez des heures de plateau, mais le premier, c'était qui? C'était lui. Il faut lui savoir crédit de ça. Donc c'est un homme qui savait épouser, comme ça, instinctivement, toujours par plaisir et par gourmandise, les grands moments du temps et de la société.
Quand il parle des Jeux Olympiques d'Helsinki, il écrit, et on voit que c'est à dessein, c'est l'époque où il n'y a pas d'argent, c'est l'époque où il n'y a pas de dope, c'est l'époque où il n'y a pas de magouille, c'est une époque saine, où le sport est sain. Il avait la nostalgie de ça, parce que il a accompagné le changement complet de cap du football mondial, sans jamais le contester. On n'a jamais entendu Sacco Mano dire « football pourri par le pognon », jamais.
Non, mais il a même été sa fascination pour Tapie qui a amené l'OM, qui a amené l'OM sur un titre de champion d'Europe. Et on est après le scandale OMVA aussi, quand même, donc c'était pas d'une clarté totale. Non, moi je crois pas. Il a été fasciné parce qu'il y avait un côté d'épopée qu'il y a eu peut-être un petit peu moins après, quand ça s'est trop professionnalisé, et cette épopée, ce destin des gens, il l'adorait. Bon, moi je l'ai vu avec Cantona, il adorait Cantona, par exemple, le plus rebelle de tous les footballeurs français. C'est dans cet environnement-là, les histoires d'hommes et les destins d'hommes qui le fascinaient.
Lisez et relisez « Je refais le match », l'autobiographie d'Eugène Sacco Mano, chez Plon. Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.